accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour à tous. En France, le bras de fer entre le pouvoir et les syndicats autour de la réforme des retraites se poursuit. Hier, ils étaient près de 500 000 personnes dans la rue dans plus de 80 villes du pays. Et alors que de nouvelles négociations autour de l'âge pivot, cet âge avant lequel il ne sera pas possible de partir à la retraite, reprennent aujourd'hui. Cette mobilisation historique intrigue et la presse internationale en parle. Bonjour Virginie Lepetit.
Bonjour Léa Lisa.
Dans le courrier international de cette semaine, la presse étrangère s'interroge sur la popularité du président français alors qu'on entame le 37e jour de grève. Et visiblement, le président jupitérien sort écorché de cette contestation.
Et oui, pour La Repubblica par exemple, aucun président français n'a jamais suscité autant de haine. Une haine que l'on retrouve aujourd'hui dans les cortèges syndicaux et les manifestations. Et même si la France est habituée aux conflits sociaux durs et frontaux, la situation présente quelque chose d'inédit, écrit Anaïs Ginori, la correspondante du journal Romain. Car c'est sur sa personne qu'Emmanuel Macron concentre la haine, pas seulement sur sa politique. Ce n'est pas tant ses succès qu'on lui reproche, mais le fait que, contrairement à François Mitterrand ou Jacques Chirac, il n'ait jamais connu l'échec. Le président n'en a pas assez bavé pour arriver au sommet et son arrogance aujourd'hui est impardonnable.
Dans ces conditions, la seconde moitié du quinquennat risque d'être compliquée.
Oui, ça va être compliqué, c'est ce que dit l'hebdomadaire britannique The Spectator qui ne voit pas comment Emmanuel Macron peut sortir de l'impasse, surtout d'ici les municipales. Et quand bien même il y parviendrait, les finances du pays sont dans un état lamentable, souligne le titre conservateur. La dette, le déficit et le chômage sont toujours trop élevés. Des indicateurs qui freinent les ambitions affichées du président pour prendre la tête d'un mouvement de réforme de l'Union européenne. Et ses rêves d'une union plus forte et plus unie ne se réaliseront certainement pas sous sa présidence, prédit le Spectator.
Mais il reste des alliés à Emmanuel Macron sur la scène internationale.
Un allié totalement inattendu, le Royaume-Uni post-Brexit. Selon l'analyse du Spectator, la perspective d'une rupture nette de l'Union européenne avec le Royaume-Uni pourrait paradoxalement renforcer la relation franco-britannique. Pourquoi ? Parce que les deux pays ont trop besoin l'un de l'autre. Le Royaume-Uni est l'allié idéal de la France, il est doté de la 5e armée au monde, de la puissance nucléaire, d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et Londres dispose en outre du 3e réseau diplomatique mondial derrière la France. Après le Brexit, le Royaume-Uni, plus indépendant et international que jamais, devrait applaudir les efforts du président français, car la France va elle aussi devenir un partenaire de plus en plus stratégique et privilégié pour le Royaume-Uni, conclut le journal.
Alors, Courrier International nous emmène cette semaine également en Russie, avec un bilan de l'année 2019 que nous livre le quotidien Commerçante, qui recense quelques belles victoires pour la société civile.
Oui, l'année 2019 montre que face à la machine d'État, la mobilisation des citoyens peut payer. Le journal Commerçante évoque plusieurs exemples. Le débat public, organisé sur le lieu de construction de la nouvelle cathédrale d'Iekaterinbourg, un débat obtenu après la mobilisation des opposants au projet initial qui ont manifesté en masse. Une centaine d'entre eux ont d'ailleurs été arrêtés par les autorités locales lors de ces manifestations.
Et ça a eu un impact ?
Ça a eu un vrai impact, mais seulement après l'intervention de Vladimir Poutine auprès des autorités locales. Et c'est finalement au chef de l'État que l'on doit ce débat et la relocalisation du projet.
Y a-t-il d'autres exemples de succès de l'opposition russe ?
Oui, un autre exemple, c'est le réexamen des charges qui pesaient sur le journaliste Ivan Golunov, chez lequel on avait trouvé de la drogue. Une perquisition et une découverte sujettes à caution, comme souvent en Russie, et qui ont été remises en cause après la mobilisation de la société civile. En fait, pour Commerçante, ces petites victoires donnent certes de l'espoir, mais la machine d'État reste toute puissante. Et les chantiers sont encore nombreux pour 2020. Le journal formule ainsi plusieurs vœux. Que les arrestations arbitraires cessent, que l'association de défense des droits humains Mémorial ne soit pas contrainte de fermer et que les avocats d'Ivan Golunov obtiennent la levée du secret sur les infractions commises par les policiers par exemple.
Enfin, il y a ce dernier sujet traité sur votre site, l'annonce surprise du retrait de Harry et Meghan de leur engagement royaux en Grande-Bretagne.
Oui, et c'est à la une de toute la presse britannique cette semaine. Tabloïdes comme journaux beaucoup plus sérieux. Le couple Harry-Meghan rompt avec les Royals, ou du moins il prend de la distance. Et pour une partie de la presse, et notamment les tabloïdes, c'est la trahison. C'est le Daily Mirror qui le dit et qui parle d'une décision égoïste. Mais pour le quotidien The Independent, c'est plutôt un service rendu à la monarchie, car en annonçant vouloir prendre une indépendance financière, en allégeant de leur propre gré le poids des royals dans les finances publiques, Harry et Meghan font entrer la monarchie dans la modernité et le 21e siècle, et ils pourront enfin vivre leur vie, c'est ce que souligne également la BBC.
Merci Virginie, ces sujets et bien d'autres encore sont à lire dans Courrier International avec en une cette semaine, États-Unis, Iran, la guerre à tout prix. Et un autre effet de la grève en France, moins attendu celui-là, c'est la pratique du vélo qui augmente. Avec des transports en commun extrêmement réduits depuis un mois dans la capitale, la petite reine règne en ce moment en maître avec deux fois plus de cyclistes à Paris depuis décembre. Au point d'arriver au niveau des Pays-Bas, pas sûr, en Hollande, il y a 23 millions de vélos pour 17 millions d'habitants. Mais depuis le début de l'année, le pays va même plus loin avec la possibilité de recevoir un vélo électrique de son employeur à la haie. Les explications d'Antoine Motto.
Depuis le 1er janvier, il est possible aux Pays-Bas de recevoir de son employeur un vélo électrique et ça quasi gratuitement. Pour un modèle à, admettons, 2000 euros, vous ne paierez en fait que 140 euros environ dans l'année. Votre entreprise prend en charge tout le reste des coûts, la plupart du temps, y compris la maintenance et les éventuelles réparations. Mais tout ça n'est valable que si vous vivez à plus de 10 km de votre lieu de travail, car l'idée pour les employeurs néerlandais, ce n'est pas de faire passer tout le monde au vélo électrique, mais pour ceux qui habitent un peu plus loin de leur travail, le vélo électrique moins polluant et moins encombrant qu'une voiture est l'alternative idéale pour le gouvernement néerlandais, qui espère ainsi inciter plus d'automobilistes à laisser leur voiture au garage. Résultat, les autorités ont mis les organisations d'employeurs des Pays-Bas autour d'une table pour les convaincre d'offrir ces vélos électriques à leurs employés. L'un des principaux arguments avancés, c'est qu'en procédant ainsi, les entreprises néerlandaises basées dans des endroits reculés auront moins de mal à recruter, et ça alors que les Pays-Bas connaissent un très bas taux de chômage et une importante pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. L'enjeu, c'est aussi de réduire les bouchons récurrents matin et soir, mais pas seulement. Avec ces dons de vélo, les Pays-Bas espèrent bien éviter aussi de perdre leur place de premier pays du vélo face au Danemark.
Le bonheur, c'est facile quand on y met du sien. Le bonheur, c'est facile. Le bonheur, c'est facile. Quand on y met du sien, le bonheur c'est comme faire du vélo sans les mains.
Il y a un autre pays européen qui ne rigole pas avec le vélo, la Suisse. Dans la Confédération helvétique, la petite reine est même officiellement inscrite dans la Constitution. Et ce, alors que les Suisses ont moins de 8% à pédaler régulièrement. Dernière idée en date pour changer la donne, autoriser les enfants à rouler sur les trottoirs. Ça ne paraît rien, dit comme ça, mais en Suisse, la mesure ne manque pas de faire débat. Jérémy Lanche.
C'est un casse-tête pour tous les jeunes parents, en Suisse ou ailleurs. Comment assurer la sécurité des jeunes enfants quand on roule à vélo en ville? Faut-il rester derrière, éveillé au grain à chaque passage d'une voiture? Ou bien faut-il rouler côte à côte en utilisant le trottoir quand il y en a un? Plus sécurisant sans doute, mais interdit au regard du code de la route. Eh bien le Conseil fédéral, l'équivalent du gouvernement en Suisse, s'est penché sur la question et il a décidé qu'à partir de cette année, les enfants de moins de 12 ans auront le droit de faire du vélo sur les trottoirs. Une décision a priori consensuel, mais qui rencontre quand même ses opposants. Des associations ont déposé une pétition contre la mesure car ils la jugent dangereuse pour les piétons, y compris les jeunes enfants. Les opposants demandent que la limite d'âge pour rouler sur le trottoir soit abaissée à 8 ans. Pas de quoi provoquer une votation populaire comme les Suisses savent le faire. Ici, c'est le gouvernement qui aura le dernier mot. Le débat peut faire sourire. Reste que dans certains cantons, on ne plaisante pas avec le vélo sur le trottoir. Il y a quelques semaines, dans la ville de Bâle, un jeune père de famille a reçu une convocation de la police adressée à sa fille de 11 ans. Motif, elle avait roulé sur le trottoir avec son vélo. Elle va devoir se rendre à un cours de la circulation obligatoire pour tous les jeunes de 10 à 15 ans dans cette situation. Quand on vous dit que le vélo, c'est du sérieux en Suisse.
Manque de voies dédiées, pistes cyclables discontinues. En Irlande, faire du vélo peut se transformer en véritable casse-tête et un casse-tête dangereux. Dans le dernier baromètre de la Fédération européenne des cyclistes qui date de 2015, l'Irlande se classait ainsi en 21e position sur 28. Comment se débrouillent les cyclistes dans la capitale irlandaise? Loin d'être bicycle friendly, c'est le reportage de notre correspondante Emeline Vin.
Aux heures de pointe, les rues de Dublin sont une immense file de voitures, de taxis et de bus, et aussi le théâtre d'un défilé de cyclistes, casques vissés sur la tête et gilets jaunes sur le dos. Mais avec ses pistes cyclables étroites et discontinues, la capitale irlandaise est loin d'être le paradis sur terre pour les vélos, au point que des cours de vélos responsables se développent.
Je m'appelle Barbara Connolly, je travaille pour Cycling Right Ireland, l'organe gouvernemental de promotion du cyclisme, et je supervise le programme Pédaler Bien, la référence nationale en termes de formation. En tant que cycliste, vous faites partie du trafic routier. Nous travaillons sur les choses qu'il faut savoir pour rester en sécurité sur la route, parce que vous êtes vulnérables, les feux rouges, les ronds-points, les camions, les voitures stationnées.
Barbara Connolly intervient surtout dans les écoles pour former les cyclistes de demain, les bicycle commuters, comme on les appelle ici. Elle donne aussi quelques cours pour adultes, souvent des employés trop peu sûrs d'eux-mêmes pour aller au bureau à bicyclette. Des cours pour rouler en toute sécurité, c'est le conseil que donne Connor, agent immobilier mordu de vélo, aux nombreux expatriés de la capitale irlandaise.
On roule sur la même voie que les voitures. La piste n'est pas séparée, contrairement à d'autres villes européennes. Il faut partir du principe que tout le monde roule comme un idiot. Prenez des cours aussi, ça vous coûtera de l'argent, mais ça vaut le coup, c'est votre vie.
Le programme de Barbara Connolly propose des leçons pour prendre confiance en soi et mieux connaître la ville. Mais la formatrice refuse l'idée d'un permis vélo obligatoire.
Il est beaucoup plus important d'avoir un environnement sécurisé pour faire du vélo plutôt que de demander à chacun de passer un permis pour s'adapter. Les infrastructures et la pratique sont complémentaires. L'un ne doit pas remplacer l'autre.
La formation ne doit surtout pas être utilisée comme un moyen de compenser le manque de sécurité pour les cyclistes dublinois. Sam réalise tous ses trajets intramuros à bicyclette.
Je vais au travail, j'emmène les enfants à la crèche, à l'école. J'adore faire du vélo, mais la réalité, c'est que c'est dangereux. Les infrastructures ne sont pas vraiment terribles. Les bus, les voitures font des écarts sur les pistes cyclables. J'imagine que je m'y suis habitué maintenant.
Le jeune papa a fini par élaborer quelques techniques pour assurer sa sécurité. Griller certains feux rouges, passer sur les trottoirs. Sam se sent obligé d'enfreindre le code de la route.
Quand vous faites du vélo dans Dublin, vous devez être hyper vigilant. Aux véhicules derrière, à ceux qui arrivent, aux voitures qui déboîtent. Quand vous avez des pistes cyclables et que les camions se garent dessus, ça devient vraiment dangereux pour les cyclistes. Pour tout le monde sur la route, en fait.
Malgré le danger, il y aurait environ 100 000 cyclistes dans la capitale irlandaise, un nombre qui a triplé en 13 ans. Le vélo reste un moyen de transport moins cher, moins contraignant que les bus et plus rapide que la voiture. L'association Dublin Cycling Campaign fait du lobbying pour une ville mieux adaptée à tous. Son président, Paul Corcoran.
Si Dublin était une ville pour les cyclistes, il y aurait moins de bruit, moins de pollution, des gens en meilleure santé. Regardez, nous sommes en ce moment devant la cathédrale de Christchurch. C'est un carrefour très fréquenté. Les pistes cyclables sont simplement peintes sur le sol. Du coup, les cyclistes sont en plein milieu des voitures. C'est juste un exemple. La ville investit trop peu.
L'association essaye de conseiller l'équipe municipale pour mettre en place de meilleurs équipements.
De bonnes infrastructures, ce sont des pistes séparées des voitures avec des bordures de protection, des pistes à double sens. On a beaucoup insisté sur les vêtements jaunes fluo, sur le port du casque. Mais face à une voiture qui roule à fond et qui percute un cycliste, un gilet jaune ne change pas grand-chose.
La proposition de Paul Corcoran, supprimer les places de parking pour faire de la place au vélo. L'idée est déjà réalité dans le Grand Canal Dock, le quartier des entreprises technologiques où travaillent 40 000 personnes.
Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de supprimer les places de parking. Ici, les cyclistes peuvent aller dans différentes directions. Ils sont séparés du trottoir piéton par une allée d'arbres. En plus, c'est très joli. Et regardez, rien que là, il y a bien 20 ou 30 cyclistes.
La ville de Dublin travaille en ce moment sur un nouveau réseau citadin qui devrait faire la part belle aux transports en commun et aux vélos. Mise en place prévue dès l'année prochaine.
Music. C'est vendredi et l'heure de retrouver Vincent Théval pour sa sélection musicale. Bonjour Vincent.
Bonjour Léa Lisa, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous emmenez en Italie avec la chanteuse Maria Mazzotta.
Direction le sud-est de l'Italie et plus précisément la région de Lecce, d'où est originaire la chanteuse Maria Mazzotta, qui vient de publier un album somptueux où elle est accompagnée par l'accordéoniste Bruno Galeone Amore Amaro, Amour amer, c'est son titre, puise dans un répertoire de chants méditerranéens aux frontières des traditions italiennes et balkaniques, un prolongement naturel du parcours musical de Maria Mazzotta, qui a étudié le piano et la harpe au conservatoire, puis la polyphonie et le chant traditionnel du Salento, la péninsule au sud-est des Pouilles, terre de rencontre entre les communautés italiennes, grecques et albanaises. Elle a collaboré avec plusieurs groupes, dont le canzoniere Grecanico Samentino, et a multiplié les collaborations sur scène comme sur disque, épousant des styles assez différents, avec une agilité vocale impressionnante.
C'est Maria Mazzotta sur RFI et son titre « Scuramaye ». Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous écouter partout, tout le temps, rendez-vous sur RFI.fr à la rubrique podcast. À lundi.
Let's